Vous entrez dans les ateliers de la nuit. Nous sommes au cœur de paysages sonores dont les titres sont « L'arbre ouvert », « Improvisation d'automne », « Le peuple des falaises », « Bec de poule et clarinette », « Vol de mouche », « Les cloches de l'église de Vézac », « Partie de pêche », « Foire aux bestiaux ». Ce sont des créations sonores du Périgord. Ça s'appelle « Radio Dordogne » et ça explore la mémoire des gens, des lieux de la Dordogne en son. Ce sera au sommaire de l'Atelier du son. Il y aura aussi un nouveau disque du saxophoniste-chercheur Bertrand Goguet, un festival qui s'annonce à l'IRCAM et une histoire de son qui se passe à New York. Mais tout de suite, on part en orbite avec la musicienne électronique Bérangère Maximin. Posez-vous, on décolle et on plonge en même temps aux côtés de Thomas Baumgartner.
Bonsoir et bienvenue dans l'atelier du son. Bonsoir Bérangère Maximin.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir, musicienne, compositrice, électronique. On ouvre avec un morceau de votre album « Tant que les heures passent ». Voyage morphologique, c'est le titre du morceau que vous aviez édité sur le label de John Zorn, cet album.
Oui, c'est ça, mon tout premier album.
Premier album, ça se passe bien la réécoute?
C'est assez curieux, je dois dire. Mais ça me plaît, c'est des bonnes surprises en fait. Mm-hmm. Je sais pas, je crois que je suis un peu dure avec moi-même. Ouais. Et quand je réécoute certains morceaux avec de la distance, je me rends compte que ça va. Cette légèreté me plaît assez. Je commence à l'assumer de plus en plus en fait.
C'est-à-dire que c'est plus agréable de l'écouter maintenant, plusieurs années après. C'était quand, tant que les heures passent?
Ça devait être 2006. En 2008. 2008.
Voilà, donc 7 ans après, c'est mieux que quelques heures après.
Tout à fait, ouais. Et même quelques mois après. Ouais. Oui, parce qu'en fait, on est passé à autre chose. On a une distance sur l'œuvre. Peut-être qu'on est plus proche de l'écoute de l'auditeur. Mmh. On se laisse un peu aller, on est moins accroché à certains détails.
On s'est un peu oublié soi-même, en fait.
Voilà, c'est ça. Là, j'ai oublié, par exemple, l'articulation que je trouve assez légère, très bien menée. Mmh. Alors que je me rappelle qu'à l'époque, je me posais encore des questions, enfin, jusqu'à après la sortie du disque, ouais. Par exemple.
Oui. Est-ce que vous avez plus de compréhension à votre égard maintenant, quand il s'agit d'œuvres plus récentes que cet album-là ou pas?
Ça reste toujours très difficile, ouais, j'avoue, oui. Oui, parce que je pense, mais ça doit faire partie de la démarche en soi. Mmh. Je pense que on s'investit tellement quand on compose qu'on attend en fait un résultat qui est, je pense, normal qu'il soit un peu en dessous de ce qu'on imagine. Mmh. Et puis au fur et à mesure, les choses se règlent un peu.
Ça se décante.
On se relâche un peu par rapport à nos propres exigences en fait. Oui.
Vous nous rendez visite ce soir pour une conversation, évidemment, mais aussi à l'occasion de la sortie imminente, dans 3 jours, d'un nouvel album qui s'appelle Dangerous Orbits. Oui. Vous étiez venu nous présenter Infinitésimal.
Voilà, son petit frère.
Son petit frère, c'est vrai, oui.
Oui, oui, parce que c'est en fait cet album-là est beaucoup tiré de, enfin, est fait à partir de sons que j'avais enregistrés au moment d'Infinitésimal, c'est-à-dire il y a presque 2 ans.
Oui, album précédent.
Oui. Et en fait, c'est une version un petit peu plus, on va dire, plus ample, un peu plus généreuse, un peu plus expansive, qui est un peu moins dans l'intime et qui essaye de donner un regard un peu sur à peu près le même type de sujet, c'est-à-dire un peu des grands sujets comme l'amour, ce que la vie peut nous apporter, etc. En fait, tout ce genre de notions un petit peu complexes d'ailleurs, un peu à
verbaliser.
À verbaliser,
oui,
voilà.
C'est pour ça qu'il y a la musique.
Simple, exactement, parce qu'on peut, ça peut contenir des notions très très complexes sans, voilà, sans avoir à se démêler, à se battre avec les mots comme je suis en train de le faire. C'est assez pratique. Oui.
Et l'amplitude dont vous parliez à l'instant, est-ce qu'elle se traduit aussi dans la manière d'aborder le son ?
Oui, oui, tout à fait, dans la gestuelle déjà. C'est-à-dire que je suis moins partie de petits sons qui étaient tout proches du microphone, mais disons que je les ai retravaillés pour leur donner un côté, ce côté macro qui fait qu'en fait, à force de s'approcher très très près, on a une vision un peu lunaire en fait, un petit peu comme l'image, hein, le grain, etc. fait qu'on a moins de repères, c'est beaucoup plus flou.
On confond l'infiniment petit, l'infiniment grand.
Voilà, voilà, on retrouve tout à fait ça, oui. Oui, oui. Et c'est là-dessus que j'ai joué, en fait. J'ai essayé d'avoir un regard beaucoup plus... mais comme si j'étais une entité, oui, qui a regardé la Terre de l'extérieur, en fait.
Les orbites dangereuses, Dangerous Orbits, donc c'est le titre de l'album. Les orbites dangereuses, c'est ce qui est drôle, c'est que ce titre-là peut être pris à la fois comme l'orbite de l'œil, donc finalement il est là, l'infiniment petit, l'immédiat en fait, cette grande proximité. Et puis les orbites évidemment dans l'espace, on sent cet aller-retour en fait, ou cette sorte d'ambiguïté à l'intérieur de vos morceaux.
Cette tentative de communication, oui. Ouais. Entre une toute petite chose qui serait sur Terre et puis quelque chose de beaucoup plus grand. Enfin, une tentative et on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui accroche. En fait, il y a un début de dialogue aussi. Une sorte de calme aussi, je dirais. Comme si c'était... je sais pas, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais une forme de sagesse, en fait, d'essayer de laisser les choses se faire, et de moins essayer de les contrôler.
Accepter un peu.
Voilà.
Vous êtes en train de devenir zen, Bérangère
Maxima. Oui, peut-être bien.
Mais il y a des petits textes qui accompagnent chacun des titres dans le livret du disque. Des petits textes en anglais, les titres sont en anglais aussi, qui sont parfois à la limite, enfin on ne sait pas si c'est pour aider à écouter ou si c'est pas pour ajouter finalement une couche de poésie, une dimension textuelle qui accompagne le morceau plus qu'il ne l'explique.
La poésie, je ne sais pas, je dirais plutôt que ce serait pour l'ancrer dans le quotidien peut-être.
Ouais.
Oui. C'est-à-dire que plutôt que de donner une image un peu mystérieuse à tout ça, plutôt l'essayer de le ramener à quelque chose qui est lié au quotidien. Je dirais pas que c'est comme faire de la cuisine, ou j'irais pas jusqu'à faire ces comparaisons-là, parce que ça demande un état d'esprit tout à fait particulier. Et aussi une relation, enfin c'est assez solitaire comme travail, mais c'est pour le remettre dans le contexte, en fait, dans lequel j'ai travaillé, mais de manière beaucoup plus réaliste, on va dire. Pas essayer de le raccrocher à quelque chose de trop, justement. Par rapport à la musique qui, elle, apporte une spiritualité en soi, d'essayer de contrebalancer par quelque chose beaucoup plus simple. Donc, ce serait une poésie dans le sens où ce serait le mettre dans un contexte qui la rend peut-être un peu plus facile d'accès aussi, je sais pas. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai écrit dans cet objectif-là.
Bah, par exemple, le morceau Glow, qui est la deuxième piste du disque, le texte, il accompagne les quelques lignes. Free willing in outer space.
Oui.
Ça veut dire en roue libre dans l'espace.
Oui, 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 mais c'est comme quand on est enfoui dans ses pensées, vous savez, c'est ça. Enfin, pour moi, c'était pas plus que ça. C'est-à-dire que ça nous emmène très très loin et qu'on fait des associations d'idées et qu'on a cette espèce de vitalité de l'esprit, en fait, plutôt.
Le travail du son, la dernière fois qu'on s'était vu, vous nous expliquiez comment vous pouviez saisir des sons enregistrés comme ça de très près pour ensuite les intégrer, les modifier, les travailler, les transformer complètement. Est-ce que ça reste une base de votre méthode de travail ?
C'est toujours celle-ci, oui.
Ouais.
Oui, et puis c'est un plaisir aussi immense que je prends de plus en plus. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'essayer de lâcher prise un peu et de du coup on écoute beaucoup mieux aussi, une forme de relaxation en fait. C'est vrai que je deviens zen peut-être, oui, je me rends compte.
Mais ça s'entend aussi dans la construction de certains morceaux, je pense au premier, Cracks, premier qui ouvre cet album Dangerous Orbits, Bérangère Maximin. Et là, il faut vraiment s'y plonger pour se rendre compte de ce que c'est que de construire un morceau. Parce qu'il faut construire un disque, ça d'une part, on y reviendra peut-être, mais construire le morceau. Il faut y entrer, il faut se le plonger. Et en fait, l'auditeur le construit aussi autant que vous l'avez fait.
Oui, c'est ça. C'est un morceau qui se déroule de manière assez progressive. Donc, on a les couches les unes après les autres. Et ici, je trouve que c'est assez flagrant et c'est plutôt jouissif, je trouve. Le jeu entre les parties purement synthétique et la prise de son microphonique. Comme si elles s'imitaient en fait l'une l'autre, ça j'aime bien. Ils viennent se contrecarrer un peu, le rythme n'est pas complètement régulier. Parce que c'est ce qui se passe enfin, dans la vie, quoi, rien n'est complètement régulier. Donc j'aime bien aussi garder ce côté-là, dans les boucles un peu cassées et tout ça. Et je trouve que ça marche un peu dans l'idée du chaud-froid. Des choses qui se complètent, qui viennent se compléter sans se mélanger en fait, tout à fait. Et qui pourtant décrivent, dépeignent un même sujet en fait. Et la résolution, elle est un peu comme ça aussi. Il y en a une d'abord qui se termine, et puis non, peut-être pas, peut-être qu'elle revient. Puis l'autre aussi, parce que bon, il y a aussi une forme de politesse qui fait que l'une voudrait pas trop, celle de la place à l'autre, etc.
Alors vous dites, Cracks, c'est le point de départ, c'est la carte de départ. Oui. Vous écrivez les traces que le temps a laissées sur le corps. Voilà la bande-son parfaite.
Oui, la bande-son, la partition parfaite. J'aime bien aussi cette idée, que l'âge, les marques que laisse le temps sur le corps, ça soit l'inspiration, en fait, d'une musique.
Et ces traces-là sont dans le morceau?
Non, pas vraiment. Mais disons que les chaînes, tous les sons un peu métalliques, ça figure un peu ça, en fait.
On va se plonger dans Cracks. On va vraiment se plonger. On va l'entendre en intégralité pour que, à cette heure-ci, votre musique nous accompagne et qu'on l'accompagne aussi avec notre écoute Cracks. C'est donc la première piste de Dangerous Orbits, qui est le nouvel album de Bérangère Maximin, ce soir dans l'Atelier du Son. Thank you. Bérangère Maximin est dans l'atelier du son sur France Culture ce soir. On sort juste de l'écoute de Cracks qui est l'ouverture de Dangerous Orbits, le nouvel album qui sort dans 3 jours, disponible dans 3 jours, Bérangère Maximin, ce Dangerous Orbits. Et voilà, on en sort juste hypnotisé de cette ouverture de disque de Cracks avec, comme vous le disiez, ce mélange d'une sorte de drone d'un côté, une nappe qui évolue et puis de l'autre des sons plus secs, plus nets. Des sons qui sont réverbérés, on dirait qu'ils sont dans un grand espace, on se figure peut-être des lieux abandonnés mais qui résonnent encore d'une forme ou l'autre de fantômes. Bon, après, il y a la cuisine derrière, d'où viennent ces sons, comment ils sont fabriqués, il ne faut peut-être pas le dire d'ailleurs. Faut peut-être pas,
je crois qu'il ne faut pas le dire.
Faut pas le dire. Et alors, il y a un label derrière ce disque qui est Crammed Discs, oui. Fameux label belge qui est piloté depuis plus de 30 ans par Marco Lander. Et vous, c'est votre premier album sur ce label, c'est quoi l'histoire?
Oui, sur ce label et cette collection-là, Made to Measure, oui. Mm-hmm.
Alors comment vous arrivez là? Comment ça se passe? Comment on discute avec... Ah, c'est un label qui est assez installé, même très installé. Il y a quelques signatures assez fameuses. Je pense à Tuxedo c'est The Moon qui est voilà, ce groupe un peu underground, un peu légendaire. Voilà, bah, c'est chez Kramdisk. John Lurie qui est repéré dans l'univers de Jim Jarmusch. Bah, voilà, c'est aussi chez Kramdisk.
Vous, oui, vous arrivez là comment? Oui, et aussi toutes les musiques actuelles qui ne sont pas dans les pays d'Europe de l'Ouest. Voilà, ce qui est quand même très, très, bah, assez rare.
Sono mondial actuel.
Voilà, exactement, oui. Les musiques actuelles qui ne sont pas avec les mêmes cultures que nous, ce que je trouve une nouvelle grille de lecture qui est pour moi tout à fait passionnante. Le catalogue est tellement grand que, en fait, je crois avoir écouté peut-être 10% pour le moment, mais je m'y suis attaquée, je vais continuer, c'est extrêmement riche.
Donc c'est une rencontre.
Il y a des individualités très très fortes, surtout dans la collection dans laquelle je suis, qui est vraiment très originale, vraiment des choses qui touchent un peu à tous les styles. Oui.
Alors comment vous vous retrouvez là? C'est une rencontre avec Mark Hollander.
Voilà, c'est à travers la musique, en fait. Une fois que mon album a été prêt, je l'ai envoyé. Ça a pris un petit peu son temps. Et puis, en fait, on s'est retrouvés sur... J'ai été interviewée pour un magazine anglais. Et il a lu cette interview, il l'a trouvée très bien. Et il m'a recontactée par mail en me disant « Mais j'ai écouté cet album, il m'a beaucoup plu. Et je voulais savoir si tu avais trouvé quelqu'un pour le sortir. » Et justement, non, je n'avais pas encore en fait terminé mon tour, quoi, en fait, négocié. Et il m'a proposé de l'inclure dans la collection. J'ai dit oui tout de suite sans attendre, en fait.
Mais ça veut dire qu'on fabrique comme ça, quand on est... musicienne, compositrice, électronique, comme vous, c'est pas votre premier album, c'est le cinquième,
c'est le quatrième.
Et le quatrième, quand on est à son quatrième album, on continue à travailler d'abord et avant tout face à son ordinateur, chez soi, à son propre rythme. Et une fois que l'objet est terminé, on va rencontrer qui pourrait le diffuser.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, bon, là, ça va dans le futur proche. Probablement se passer autrement, parce que ce qu'on imagine avec le label, justement, Kramdisk, c'est de voir un peu les choses sur la longueur. Donc ça, pour nous, c'est le premier d'une longue série, enfin, on l'espère bien. Donc maintenant, évidemment, l'optique, elle change, c'est-à-dire que j'ai moins de pression, c'est-à-dire moins de pression envers moi-même, même si après, l'exigence musicale, elle est toujours là. Et puis aussi, le travail quotidien, moi, j'aime bien, je suis de ceux qui aiment travailler tous les jours, sans forcément avoir de deadline... qui vient rendre les choses plus compliquées ou alors terminer les choses. Moi, j'aime bien, de toute façon, travailler chaque jour. Donc, je continue sur ce rythme-là. Mais après, avec peut-être un petit peu plus de... avec plus d'envie, certainement, puisqu'il y a moins de doutes. Quand on a des gens aussi compétents et aussi ouverts derrière, bah, ça donne envie de faire des choses avec un petit peu plus d'envergure. Enfin, tout simplement, d'y réfléchir de manière un petit peu plus... ouverte et enthousiaste, en fait, sans trop se poser de questions. Enfin, en se posant de meilleures questions, disons, les bonnes questions.
Et en pouvant poser ces questions à quelqu'un d'autre, à l'interlocuteur,
voilà,
là.
Exactement, voilà. Oui, qui a un retour, une sorte de ping-pong qui vient enrichir les choses, tout à fait, oui.
Alors, vous dites, je travaille tous les jours, j'aime travailler tous les jours. Ce qui se passe aussi souvent, c'est que vous êtes quelqu'un de scène, vous êtes sur des scènes. Et à quel point un album comme ça se fabrique ou peut prendre son ampleur sur scène?
Eh bien, j'y réfléchis encore parce que, en fait, ce sont deux activités qui sont pour moi parallèles, mais elles ont chacun leur rythme. C'est-à-dire que le travail en live exige une certaine part d'improvisation, etc., que je trouve très important. Parce que si c'est pour jouer en concert, j'aime bien aussi qu'il y ait une part un peu de risque, c'est-à-dire de ne pas trop préparer. Donc, en fait, là, c'est toujours une question qui est ouverte quand l'album que j'ai travaillé en studio est terminé. C'est de savoir comment je vais l'éclairer après sur scène. Alors, des fois, je fais tout simplement ce qu'on pourrait appeler un remix, c'est-à-dire de le rejouer, de le remettre en forme, de le remixer. Et là, je me demande si je ne vais pas carrément faire une version un peu différente, c'est-à-dire vraiment le mettre dans un contexte tout à fait différent. Peut-être même changer les rythmes, etc. Donc là, c'est en cours, en fait. Je suis en train de travailler dessus.
Et les scènes, vous avez la chance qu'elles soient relativement mondiales, celles qui vous accueillent.
Oui, c'est ça. Avec, du coup, des écoutes très différentes, ce qui est très intéressant aussi, oui.
Le retour du public vous fait changer votre manière d'interpréter.
Disons que ça influence, forcément. Sinon, ce serait pas drôle.
Merci beaucoup Bérangère Maximin d'être venue vous présenter cet album tout frais, Dangerous Orbits, donc que vous mettez en orbite ce soir d'une certaine manière.
Voilà, exactement.
Il démarre et donc lance. On va le suivre. Merci beaucoup. Lift et bonne off. Suite. Merci.
Au fin fond de la Dordogne, c'est-à-dire nulle part.
Radio Dordogne. Radio Dordogne.
Ce passé me parut mon avenir.
Et on chauffe. Écoutez, on ferme, on chauffe au bord de l'eau. Là. Écoutez.
Donc, et la Dordogne, et le pays de cœur, bien entendu. Je vais toujours en Dordogne. Hein. Et donc.
L'atelier du son continue sur France Culture avec quelques nouvelles nouveautés, informations. Radio Dordogne, pour commencer cette nouvelle partie, l'extrait qu'on écoute là fait partie d'un CD intitulé Radio Dordogne numéro 1 et aussi radiodordogne.com, du son créatif sous une multitude de formes, fabriqué depuis Vézac dans le Périgord noir à destination du monde entier. C'est Benjamin Bondonneau qui est un des deux cofondateurs de Radio Dordogne et qui est avec nous par téléphone. Bonsoir Benjamin Bondonneau.
Bonsoir.
Alors, Radio Dordogne, ça part vraiment tous azimuts. J'ai l'impression que vous ouvrez grand le spectre, la palette. Il y a de la musique, de la création sonore, de la parole documentaire. C'est venu comment cette idée, Radio Dordogne ?
Oh ben c'est venu parce que on est deux fondateurs en effet du projet. On est tous les deux musiciens. Enfin, musiciens, voilà, professionnels. On va dire qu'on vit de ça depuis quelques années tous les deux. Et puis, on est amis d'enfance également, donc ça rajoute un peu aussi, parce qu'on a une approche malgré tout qui reste un peu affective avec tout ça. Et puis, on habite dans le Périgord noir, et puis on s'est dit qu'on a été amené souvent à enregistrer des sons en extérieur pour nos projets musicaux. Et sur cette banque de données, on a eu envie d'intensifier ce travail-là, et puis d'être dans l'idée, on habite ici, qu'est-ce qui se passe ici, comment on peut continuer à nourrir l'écoute ou à interpréter en tout cas les espaces, et puis l'évolution du son aussi dans ces endroits-là.
Vous
donc
dites,
c'est venu un petit peu...
Ouais, vous dites alimenter l'imaginaire sonore du Périgord.
Bah oui, on voit un peu comme ça en fait, on considère que d'une certaine façon, ça reste central de continuer à interpréter les espaces. Le Périgord, évidemment, comme plein d'autres endroits, ont des formes de clichés sonores auxquels on pourrait s'attendre, qui sont, je sais pas moi, les oies, la préhistoire, enfin la gastronomie, tout ça. Donc, qui reste évidemment vachement important, mais en même temps, il y a autre chose qui se passe. Il y a des enfants, les enfants grandissent, les voix changent, la façon de parler change, les paysages sonores eux-mêmes ils évoluent. Le débit de la voix change d'année en année, les cours d'eau évoluent petit à petit. Donc, il y avait l'idée, nous, des espaces sonores qu'on pouvait connaître enfant. On a la chance de pouvoir récupérer des archives régulièrement, des archives sonores.
Oui, j'ai l'impression que la question des archives, justement, Benjamin Bondonneau, ça vous intéresse-vous particulièrement sur la question de la voix, l'évolution des formes de la voix, de la note. Enfin voilà, ça, ce travail sur les archives sonores, des archives personnelles des gens, ça vous intéresse pour ça, j'ai l'impression.
Ah ouais, parce que c'est vrai qu'après, c'est un territoire, il y a eu beaucoup de locuteurs occitans qui ont sûrement construit la langue, en tout cas le débit, la diction de façon un peu particulière, qui petit à petit disparaît. Et et puis il y a d'autres gens qui sont venus habiter en Dordogne, qu'on appelle des néo-ruraux, ou des Anglais, des Hollandais. La langue change, et les rapports à la langue, les rapports à l'occitan, la façon de raconter aussi, raconter ce territoire-là, nous paraît assez important et évidemment très musical, quoi.
Alors Radio Dordogne, avec votre partenaire sur le projet, Wilfried Deur, ça a à peu près un an, et là vous êtes en train de passer à une étape, l'étape suivante, vous avez passé des commandes à des compositeurs et des gens de son.
Oui. Bah, nous, on a vraiment envie d'ouvrir les fenêtres et de proposer des formes de carte blanche à d'autres artistes sonores qui sont pas du tout des gens qui sont liés à ce territoire-là ou qui ont une approche parfois imaginaire ou parfois même fantasmée. Donc, on a passé 5 commandes là qui sont en train d'être qu'on commence à recevoir. Il y en a une qui est déjà en ligne là, qui est une commande qui a été faite à Sébastien Sirotto, qui a travaillé sur les chiens de chasse et la trompette. Ouais. On va recevoir une commande de Jean-Yves Bosseur, d'Olivier Tout-le-Monde, de Carole Riesec et de Jérôme Nottinger. Mmh. Et puis, on commence à passer aussi commandes pour la prochaine session, la prochaine année. Et ces 5 commandes-là donneront lieu donc à Radio Dordogne 2. L'idée, c'est qu'il y ait une publication chaque année des travaux, des commandes qui ont été passées.
Oui, là, il y a le premier Radio Dordogne, le premier coffret, le premier CD est paru là il y a quelques mois et qui est distribué par Metamkin. Donc là, c'était une manière de faire connaissance. Et puis, c'est une série qui commence.
Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, l'idée, c'est que ça soit sous forme de série et puis vraiment abordé de carte blanche, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont, chacun fait vraiment ce qu'il veut. Il y en a qui viennent enregistrer sur les territoires. Il y en a qui font avec des souvenirs d'enfance, il y en a qui sont du côté de la fiction, ou qui ont une approche vraiment compositionnelle. Alors en effet, c'est quelque chose qui est assez hétérogène, mais ça nous tient aussi à cœur, en fait, qu'il y ait cette approche-là qui soit défendue, on va dire, que ce soit pas forcément de la pure création sonore, ni une approche purement documentaire, mais qu'il y ait des liens et des connexions qui pourraient paraître dans un premier temps assez improbables, mais qui continue en effet à nourrir tout ça, quoi, à nourrir aussi l'imaginaire d'un endroit, quoi.
Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, Benjamin Mondono, ouvrir les fenêtres, et encore une fois, alimenter l'imaginaire sonore du Périgord, voilà, une manière de définir votre travail, et ce travail d'édition et de création éclectique, sonore et musicale. Donc les CD, on l'a compris, le premier existe, le deuxième est à venir, et entre-temps, donc il y a radiodordogne.com que vous alimentez régulièrement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, voilà, rapidement ce soir pour nous parler de Radio Dordogne et de ce projet qui est encore en phase de démarrage, et on vous souhaite une belle réussite avec ce projet.
Ah, bah merci beaucoup.
Merci et à bientôt.
Merci, à bientôt.
Bloc noir donc de Bertrand Goguet sur l'album tout récent Chiro. Bertrand Goguet est saxophoniste et musicien électronique, il est improvisateur et compositeur. Chiro est sorti il y a peu de temps donc, et c'est issu d'une résidence dont il a bénéficié à la villa Kujoyama à Kyoto. Bertrand Goguet joue là sur la multiphonie, c'est lui qui le dit, il aurait pu être avec nous en liaison quelque part, mais il est à l'autre bout du monde, c'est ça aussi la vie de musicien, le saxophone. Donc c'est un instrument qui joue normalement une note à la fois, monophonique, mais donc Bertrand Goguet ici tente la multiphonie. Ces morceaux sont aussi le résultat de l'apprentissage de la flûte traditionnelle shakuhachi, Donc ça, c'est ce qu'il a appris à la villa Kujoyama, à Kyoto. Et c'est aussi la poursuite d'un intérêt personnel pour la culture japonaise depuis l'adolescence. Shiro, donc cet album, à la recherche d'une autre musique, d'une autre notation, d'une autre pratique pour redécouvrir son propre instrument. Shiro, Bertrand Goguet, enregistré, bon, un peu plus près de chez nous, à Guebwiller, en Alsace, le ballon, au couvent des Dominicains. Bertrand Goguet, saxophoniste, Shiro, c'est sur le label Herbal. Information, agenda, actualité, on continue dans l'atelier du son sur France Culture. Le festival Manifeste, ça commence bientôt et ça ouvrira par Requiem pour un jeune poète de Bernd Alois Zimmermann, une pièce de la fin des années 60, dont on entend là quelques bribes. Manifeste, c'est donc le festival de l'IRCAM, ça dure un mois à partir du 2 juin. L'IRCAM, le lieu du dialogue entre la science et l'art musical et sonore, juste à côté du centre Pompidou dans le centre de Paris. Il faut être entré une fois dans les profondeurs de l'IRCAM. Une bonne partie de cette institution est souterraine, sous les pieds des passants qui se trouvent près de la fontaine Stravinsky, où s'agitent les sculptures mobiles de Tinguely et Nikita Saint-Phalle. On a passé un coup de fil au directeur de l'IRCAM, directeur depuis 2006, le musicien Franck Madlener, pour qui Manifeste est un moment important pour l'IRCAM, une forme de vitrine publique des recherches, un moment important en termes de plein de choses en fait.
En termes de monde, de rassemblement, de vitrine, en effet, de faire entendre ce qui se passe là dans les sous-sols, de ce qui se prépare et de ce qui apparaît au grand jour. Et précisément, à partir du 2 juin, on va faire entendre la clameur du monde et de l'histoire. C'est le fil conducteur de tout ce festival.
En termes de fil conducteur, il y a le temps aussi, si j'ai bien compris, la question du temps.
Oui, parce que nous ouvrons le 2 juin avec un compositeur Zimmermann qui en 69 écrivait un requiem pour un jeune poète qui est en fait le requiem du 20e siècle. Il nous fait entendre, il compresse tous les énoncés, on pourrait dire, du 20e siècle, poétique, politique. Ça donne un tableau apocalyptique assez vertigineux où vous entendez simultanément Mao, Hitler, Churchill, Staline, les poètes, les langues du 20e siècle, les grands textes. Et tout ça se donne simultanément, c'est-à-dire que vous êtes dans une sphère, et lui-même, Zimmermann, parlait toujours de la sphéricité du temps, c'est-à-dire que nous sommes contemporains de plusieurs époques qui se donnent simultanément. Et peut-être finalement, ce serait l'hypothèse du festival, que la musique est un art du temps, mais c'est aussi un art du simultané. Simultanément, vous pouvez percevoir cette clameur d'un monde ou d'un siècle fracassant, le 20e.
Mais c'est aussi une remise en cause, une idée, je veux dire, d'un sens commun de la musique, c'est-à-dire que la musique c'est une mélodie et donc c'est le temps qui file. Non, il y a une remise en cause aussi à travers une œuvre comme ça.
C'est-à-dire qu'on peut faire l'expérience d'un immense présent par le sonore. Par exemple, dans ce que fait un tout autre artiste beaucoup plus jeune, qui est Daniele Ghisi, il nous propose un Experiment with Time, où littéralement, vous êtes face à une vidéo, à plusieurs cycles, le cycle d'un an, le cycle d'une vie, le cycle d'un jour, et vous vous rendez compte que ce sont des emboîtements, des enchâssements, plutôt que une ligne simple et irréversible qui file vers le futur. Alors la modernité a beaucoup parlé du futur, comme d'un point vers lequel on va à grande vitesse. On peut aussi concevoir le temps comme cette sphéricité, comme cette contemporanéité de moments séparés.
C'est ça que vous appelez des œuvres mondes, des œuvres monstres?
Oui, Absolument. Et puis, dans un tout autre ordre, par exemple, le metteur en scène Guy Cassier, il s'est rendu compte et il se rend compte aujourd'hui en travaillant dans nos studios que le travail vis-à-vis de l'archive est très troublant. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui mêler le vivant et l'archive et donc échapper finalement à cet effet irréversible. En l'occurrence, il y aura un acteur, un conférencier qui témoigne d'un autre temps, de 1940, de Léon de Grelle, qui était un fasciste sévissant en Belgique. Et donc, vous avez une porosité entre le présent, le conférencier, l'acteur, et l'archive, l'histoire. Les deux, finalement, perdent leur séparation. Elles se confondent. Et on voit aujourd'hui qu'avec la technologie, avec, on pourrait dire, une sorte de poésie sonore et même de manipulation du sonore, on peut mêler les temps, les confondre. Et le sonore le fait sans doute de façon encore plus troublante, perturbante que le visuel.
C'est la force de construction du sonore, de la force d'illusion aussi du sonore ?
Oui, c'est la force du montage et aussi notre capacité à l'oreille de pouvoir entendre simultanément. C'est vraiment ça, simultanément, plusieurs niveaux, plusieurs échelles, plusieurs discours. Un compositeur très important au XXe siècle, Gérard Griset, parlait du temps de l'oiseau, du temps de la baleine, du temps de l'homme, qui sont donc des temporalités différentes, mais qui se donnent simultanément. Et c'est un peu le fil conducteur de cette histoire du temps, de cette expérience avec le temps qu'on va faire pendant Manifeste. Il y a un autre élément qui est également troublant. On a tenté plusieurs fois au XXe siècle de mettre une frontière très nette entre ce qui serait une tradition populaire et une tradition savante. Or, il se fait qu'il y a des artistes, je pense à Georgia Spyropoulos sur les bacchantes, je pense à Stefano Gervasoni sur le fado, ou à Christian Rizzo sur des traditions de danse populaire qui s'ancrent dans une tradition orale et qui ensuite composent et écrivent. Il n'y a pas une séparation extrêmement nette et hermétique entre l'oralité et l'écriture. Et dans Fado, par exemple, de Stefano Gervasoni, qu'on va présenter le 6 juin au Centre Pompidou, vous avez toute l'histoire du Fado, à nouveau une histoire, l'histoire d'Amalia Rodriguez, qui est faite dans le sonore. Donc une chanteuse de Fado d'aujourd'hui, qui est Cristina Branco, elle a évidemment sa façon à elle de réanimer le Fado, mais il y a derrière le bruit, la mer, Lisbonne, la voix d'Amalia Rodriguez, vous avez toute cette histoire du Fado qui est intégrée dans le moment du concert.
Alors ça, ce sera donc le 6 juin à 20h30 au Centre Pompidou, Fado Erratico. Le temps se confond, se superpose. Néanmoins, le temps, c'est aussi le calendrier. Donc, du 2 juin, c'est jusqu'au 2 juillet. Ça dure un mois, le festival Manifeste. Et dans plein d'endroits, plusieurs endroits dans Paris, parce qu'il y a l'IRCAM, évidemment. Il y a des choses qui se passent, on l'a dit, donc au Centre Pompidou, juste à côté. Il y a aussi des choses qui se passent à la Philharmonie de Paris, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, l'ouverture, le 2 juin, ça se passe à la Philharmonie de Paris.
Oui. Dans la grande salle d'ailleurs qui est nécessaire pour un monstre, une œuvre monstre comme le Requiem de Zimmermann. Et nous sommes également, on a une sorte de QG pour notre académie et pour le festival qui est le 104, les grands ateliers du 104 qui permettent à nouveau simultanément d'avoir des artistes du sonore, du théâtre, de la danse qui travaillent ensemble.
C'est quoi l'académie du festival, l'académie de Manifeste, Franck Madlener?
Mais l'idée est assez simple, c'est de se dire que les têtes d'affiche d'un festival peuvent prendre du temps, on leur demande ce temps pour transmettre quelque chose à une génération plus jeune, une génération émergente. Et donc, on imagine que l'atelier du 21e siècle, c'est un atelier collectif où des artistes jeunes vont travailler avec des aînés, avec certaines figures importantes, par exemple Michael Jarel, par exemple Christian Rizzo. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a une transmission directe par la pratique dans le cadre de cette académie.
Et puis, vous parliez de figures et de transmission. Cette année, c'est les 90 ans de Pierre Boulez, qui est la figure tutélaire un peu de l'IRCAM, en tout cas son fondateur. Et évidemment, il est présent.
Il est présent. On sera le 11 juin à la Philharmonie à nouveau de Paris, où Répond sera présenté dans cette architecture de Jean Nouvel. Alors, ce qui est intéressant dans Répond, c'est que Pierre Boulez a toujours parlé d'une formule de l'espace. Il a proposé une analogie entre cette œuvre et la spirale, par exemple l'architecture du musée Guggenheim, puisqu'en effet, dans Répond, vous percevez un objet sous plusieurs angles. Et dans Répond, il y a un dialogue, un Répond au sens littéral, entre six solistes qui sont à la périphérie de la salle, un ensemble qui est au centre, et puis le public. Finalement, c'est un Répond entre une forme musicale et une forme architecturale.
Vous dites vous avez écrit un texte en ouverture du programme de Manifeste, Franck Madlener, en tant que directeur de l'IRCAM, et vous dites d'une certaine manière que la technologie et la musique, et l'une étant adossée à l'autre et inversement, d'une certaine manière revitalise et fait bouger le passé.
Oui, alors on peut considérer le passé comme une chose monumentale, comme un socle immobile, ou au contraire, et c'est ce que la technologie nous montre, on peut considérer que l'archive est revivifiée par le vivant. Aujourd'hui, par des agents numériques créatifs, on peut tout à fait imaginer d'improviser avec une archive et de faire en sorte que cette archive suive, d'une certaine façon, le rythme du vivant. On y travaille en ce moment, ça donnera lieu dans les mois qui viennent à des expériences assez troublantes avec des artistes du passé qui n'existent plus, où vous pouvez imaginer un concert virtuel entre maintenant et avant. Ce qui veut bien dire que l'avant est réinventé.
Entre le maintenant et l'avant, c'est-à-dire que c'est un autre temps, enfin un mélange.
C'est l'intervalle. Si vous prenez une archive, par exemple, prenons, on fête un anniversaire de Ella Fitzgerald. Vous avez un enregistrement existant d'Ella Fitzgerald qui a été fait à Lausanne. On peut tout à fait imaginer de la remonter et on peut jouer avec un agent numérique, donc quelqu'un de vivant, peut faire du scat avec Ella Fitzgerald qui va, d'une certaine façon, lui répondre en temps réel. Alors c'est assez troublant parce que finalement, ça pose évidemment des questions de droit, des questions de droit d'auteur.
Droit moral aussi, j'imagine.
Droit moral, absolument. Mais ça pose aussi des questions philosophiques sur ce temps disparu qui est à nouveau réactivé.
En tout cas, si vous pouvez nous annoncer que Ella Fitzgerald est disponible pour un entretien dans l'atelier du son, nous aussi on est disponible.
Alors ce sera rendez-vous dans un an.
D'accord.
On y travaille.
Très bien, on l'attend alors. Et pour Manifeste, donc ça commence dans une grosse quinzaine de jours et ça dure jusqu'au 2 juillet. Et pour en savoir plus, puisqu'on a forcément un peu survolé le programme qui dure un mois, il y a manifeste.ircam.fr, le site. Merci beaucoup, Franck Madlener.
Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. Une histoire de son. C'est comme ça qu'on termine l'émission régulièrement, avant que la nuit ne commence tout à fait. Une histoire vraie, où le son a eu un rôle essentiel, raconté par le ou la protagoniste de l'histoire en question. Ce soir, c'est Alexandre Planck, réalisateur de fiction à France Culture, qui nous raconte son histoire transatlantique. D'habitude, les histoires commencent par « Il était une fois », mais là, j'ai oublié de lui demander.
Le premier documentaire que j'ai fait pour la chaîne, c'était un sur les docks, sur le mouvement Occupy Wall Street. Et c'est un documentaire qui a été fabriqué complètement par hasard, et dans des circonstances qui étaient pour moi assez rocambolesques, parce que j'avais économisé de l'argent, je parlais pas du tout anglais. Et donc là, j'avais décidé, à 30 ans, d'apprendre l'anglais. J'ai économisé pour aller passer 3 mois à New York ou 3 mois aux États-Unis pour, voilà, pour me balader, pour rencontrer des gens, pour apprendre des mots dans un dico d'anglais. Et je débarque au début du mois de septembre, et là je tombe sur complètement par hasard sur une place, la Zuccotti Place aux États-Unis, avec au milieu des gens en train de discuter ensemble. C'était le premier jour d'Occupy Wall Street. Alors je vais voir ce qui se passe. Moi, je ne comprenais absolument rien. Mais je suis resté avec eux, j'ai écouté, et rapidement j'ai compris que c'était quand même un mouvement de la gauche américaine, des gens qui essayaient de se rassembler, des gens qui venaient avec des propositions politiques, des gens qui venaient tenter quelque chose, qui venaient tenter d'installer un village au milieu de New York. Et moi qui ai toujours été très, très proche de ce genre de proposition et qui ai toujours beaucoup admiré ce genre de sitting, de manifestations, de démonstrations qui ne sont pas des démonstrations de force mais qui traduisent des désirs de changement, je suis allé tous les jours voir ces gens, rester avec eux, essayer de comprendre ce qu'ils racontaient, noter des mots, essayer de choper comme ça des phrases, de voir ce qu'elles voulaient dire. Et de fil en aiguille, je commençais un tout petit peu, au bout d'une semaine, je commençais à comprendre un petit peu de quoi il en retournait, et puis au bout d'une semaine, j'ai commencé à parler avec certaines personnes, c'est-à-dire à leur demander qu'est-ce que... Mais c'était vraiment dans un anglais totalement rudimentaire, c'était what are you doing? Et puis les gens me répondaient, et là je comprenais absolument, évidemment, d'un coup, plus rien. Mais quand je te dis rien, c'est rien, c'est pas un traître mot. Donc le temps passe, une semaine supplémentaire passe, et je voulais vraiment, pas parce que je voulais comprendre ce qu'ils faisaient, mais il y avait quand même malgré tout une espèce de chaleur humaine qui se dégageait de ces gens, où on se disait bonjour, ils voyaient bien que moi j'étais français, que c'était un peu bizarre, que je pouvais pas les aider parce que je pouvais pas totalement communiquer avec eux, mais... voilà, je suis resté et puis j'ai commencé lentement à rencontrer des gens qui, en sachant que j'étais français, ou essayaient de baragouiner quelques phrases en français, ou parlaient beaucoup plus lentement pour que je puisse les comprendre. Et donc je me suis fait des amis. Au bout de peut-être 3 semaines, le mouvement ayant perduré, moi-même étant assez halluciné de voir que le mouvement perdurait comme ça au centre de New York, avec des policiers partout, c'était quand même un énorme bordel. C'est quand même un village autonome et autogéré au cœur de New York, c'est-à-dire qu'ils faisaient de la cuisine, il y avait des dortoirs qui avaient été installés, il y avait une infirmerie, il y avait tout un tas de choses. J'ai, pour la première fois de ma vie, écrit à Irène Omelianenko, qui s'occupe des documentaires sur France Culture, que je connaissais absolument pas, juste pour lui raconter, pour lui dire, voilà, je suis au milieu d'Occupy Wall Street, je suis le début depuis le mouvement, je peux pas vous raconter exactement tout ce qui se passe parce que je ne parle pas anglais, mais simplement, je me suis demandé si ça serait pas intéressant que j'achète un petit magnéto et que j'enregistre le temps que je passe ici. Alors, ça peut s'arrêter demain, mais ça peut s'arrêter dans 2 mois. Et elle m'a dit, écoutez, oui, ça peut être intéressant, essayez d'enregistrer quelque chose. Alors, je crois qu'elle m'a donné un type de magnéto. Elle m'a dit, j'ai acheté un zoom. Et là, ça a été une révélation totale pour moi, qui n'avait jamais fait de documentaire, qui n'avait fait que des fictions, donc qui a un travail complètement différent en radio, d'aller vers les gens pour leur poser des questions, pour essayer de leur poser des questions assez, encore une fois, rudimentaires et assez, assez simples. Mais d'un coup, c'est comme si j'avais trouvé une espèce de place et une espèce de rapport avec ces gens. C'est-à-dire que c'est comme si le micro m'avait aidé à me rapprocher de gens. C'était comme une médiation, mais qui permettait d'être plus proche d'une autre langue, d'une autre civilisation, en fait. Et pendant 2 mois, à peu près, je suis resté à Occupy Wall Street. Donc, à un moment, j'avais plus d'appartement. Donc, j'ai complètement habité là-bas, vécu avec les gens là-bas, cuisiné avec les gens là-bas. Et donc, là, j'ai fait des progrès en anglais extrêmement vite parce que je passais mes journées ou à interviewer des gens ou discuter avec eux. Et finalement, l'anglais, on l'apprend très vite. Quand on est obligé de l'apprendre, on n'a pas vraiment d'autre solution. Et quand on ne sait pas discuter, quand il nous manque une petite cuillère ou quand on a froid et qu'on a besoin d'un pull, eh ben, on sait le dire quand on en a vraiment besoin. Mais donc, au même moment dans ma vie, j'ai découvert qu'est-ce que c'était que faire un documentaire. Et c'était quelque chose qui, pour moi, restera gravé dans mes souvenirs, parce que j'ai appris 2 pratiques, 2 usages, 2 langages qui permettent, finalement, le documentaire et l'apprentissage d'une autre langue de se rapprocher d'autres gens.
Voilà, c'était l'histoire de son d'Alexandre Planck, habituellement réalisateur de fiction à France Culture, donc là, qui était documentariste, on a un tout petit extrait de ce documentaire sur Occupy Wall Street, et qui suivait, il nous l'a dit, le début depuis le mouvement. Vérangère Maximin, cette histoire de Lost in Translation, je vous ai vu réagir à cette histoire-là, parce que vous tournez vous-même beaucoup, ça a dû résonner un petit peu, vous tournez
Oui, tout à fait, oui, je comprends, enfin, ça m'a fait sourire sa difficulté à comprendre l'accent américain, par exemple, qui est quand même assez particulier. En fait, il faut s'habituer par rapport à nous. Enfin, moi, j'ai plus l'habitude d'entendre l'accent anglais. Donc, à chaque fois, c'est complètement rigolo parce qu'on perd complètement ses repères. Surtout quand on pose une question et on ne comprend pas la réponse. C'est vraiment très drôle comme situation.
Alors, là, le prochain concert, c'est plutôt Berlin, une série de concerts à Berlin en juin.
À Berlin, première semaine de juin.
Voilà. Merci beaucoup, encore une fois, d'avoir été avec nous. C'est la fin de l'atelier du son. L'émission était préparée et coordonnée par Inès De Bruyne, réalisée par Véronique Lamondour. Au son ce soir, il y avait Jean-Baptiste Etchepare-Bord. Pour aller plus loin, réécouter, télécharger, commenter, rendez-vous à la page de l'émission sur franceculture.fr. Et dans un instant, vous retrouvez Aurélie Charron. Bonne suite de nuit à vous sur France Culture. Et à vendredi prochain.
Merci Thomas, belle suite de nuit à vous. Voilà ce que vous entendrez la semaine prochaine dans les ateliers de la nuit. Mardi soir, dans l'atelier fiction, la rediffusion de Lampedusa Beach de Lina Prosa. Une embarcation transportant des réfugiés coule dans le détroit en face de Lampedusa. Alors que la plupart d'entre eux se noient et que le silence se fait, une jeune femme, Shaouba, parvient dans un long monologue à raconter son odyssée. Mercredi soir, une création du collectif Soundwalk autour de Jean-Luc Godard et des archives sonores de ses plateaux et tournages. Jeudi soir, le duel par Ramucho Mata. Ramucho Mata considère que la mort, ce n'est pas si mal, car personne n'en revient et personne ne donne l'adresse. Cela reste donc du domaine du mythe. Ce serait orchestrer sa mort avant l'heure et imaginer ce qui se trame dans le magma de sa mémoire. Enfin, vendredi soir, dans son atelier du son, Thomas Baumgartner reçoit le poète américain et fondateur du site UbuWeb, Kenneth Goldsmith. Je vous dis à lundi pour l'atelier intérieur, nous serons en direct de 23h jusqu'à minuit. En attendant, vous pouvez podcaster, réécouter les ateliers de la nuit, tout est sur le site internet de France Culture. Il sera bientôt minuit et c'est l'heure des nuits.